Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Première fin de semaine de décembre sous le signe du froid sur les ondes de CFAQ 88.3 et de chez 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Avec d'ailleurs Jean pour vous présenter le deuxième service en ce... comme je le disais, première fin de semaine de décembre, extrêmement froid à l'extérieur. Est-ce que ce sera le cas toute la fin de semaine? On va souhaiter que non, hein? Maintenant, on veut toujours bien... Un petit répit, quoique, c'est ça. C'est pas. Comme le disait Météo Média avec ses vidéos d'intelligence artificielle ce matin, c'est pas juste en février qu'il fait moins 15, il fait aussi moins 15 des fois en décembre. Mais c'est ça. On était peut-être pas préparé tout le monde. Moi, en tout cas, pas grand monde était préparé pour ça. Si je regarde rapidement la météo en fin de semaine, ça va se réchauffer moyennement. Températures qui vont de moins 10 à moins 2 pour Sherbrooke et des températures qui vont aller de moins 18 à moins 13. Non, ça c'est aujourd'hui, cet après-midi. Températures en fin de semaine, elles, qui vont de moins 11 à moins 6 dans le coin de Québec. Donc, sachez-le, il fera froid quand même. Voilà, au menu cette semaine, c'est ça. Disons que comment on pourrait appeler ça? Les attaques gate, les attaques en bonne et due forme contre la culture, c'est difficile à maintenir. Parce que, à nommer. Parce que, tout dépendamment, évidemment, à qui on demande, il y en a qui vont dire que Paul Saint-Pierre Plamondon avait... 100% raison sur ce qu'il a affirmé. Et les autres trouvent que c'était une exagération et une enflure verbale et un choix de mots plus que discutable qui mène à des attaques contre le domaine de la culture. Faisons un petit peu la nomenclature des événements de la semaine. Donc, à la base, on commence lundi avec la nomination des remplaçants de Stephen Guilbeault. On se souviendra de Stephen Guilbeault qui claquait la porte la semaine dernière après les annonces de Mark Carney et de Daniel Smith pour l'éventuelle construction d'un tuyau qui va passer bord en bord de la Colombie-Britannique sans que la Colombie-Britannique ait été informée de la chose. Et, bon, évidemment, en ce moment, il y a des objections. Il n'y a pas de promoteur privé qui veut faire ce tuyau-là. Fait que pour l'instant, c'est juste comme une entente de principe. Mais ça, c'était pour l'expression favorite de la semaine dernière également, la couleuvre de trop à avaler pour Stephen Guilbeault. Donc, pour lui, c'en était assez, c'était terminé. Déjà que Mark Carney détruisait... semaine après semaine, le travail des dernières années de Stephen Guilbeault. Là, en plus de passer un tuyau de pétrole pour avoir accès à l'océan Pacifique, quand on n'est même pas certain que les énergies fossiles vont être encore si utiles que ça, lorsque ce dit tunnel-là aurait fini d'être construit dans 10, 15, 20 ans, c'est ça. C'était la goutte de trop dans le vase qui a débordé. C'était la couleuvre de trop. Je trouve une troisième expression, mais il m'en viendra pas. Donc, ça ne passait pas. Il fallait qu'il quitte, même s'il n'était plus ministre de l'Environnement, ministre de la Faune et des Fleurs. Il était quand même ministre des Parcs. Mais son titre principal, c'était ministre du Patrimoine Canada, donc ministre de la Culture au fédéral. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé le rôle de... J'allais dire Bernard, mais non, ça c'est Bernard Dréville, le provincial, qui est le ministre des pas de GES, ou en tout cas le laisser tranquille avec ça le plus possible. Mais dans le cas de Steven Guilbeault, voilà, je vais finir par le dire. Steven Guilbeault, son poste a été redivisé. Donc, Joël Lightbound accède finalement, ben, en fait, était déjà au conseil en étant ministre de Postes Canada, mais occupera dorénavant le rôle de leader pour le Québec. Donc, il prend cette partie-là du rôle de Steven Guilbeault. Et c'est Mark Miller, député de l'Île-des-Sœurs à Montréal, notamment l'Île-des-Sœurs, c'est pas que, mais notamment, ben, député de Montréal, qui hérite de la culture. Et, suite à cette nomination-là, les différentes agentes québécoises, différents agents québécois de la culture ont envoyé des communiqués, comme il est coutume de faire, en disant « Nous avons hâte de travailler avec M. Miller. Nous sommes contents de sa nomination. Nous verrons est-ce que les travaux se passent bien avec lui, etc. etc. » Donc, essentiellement, de la boîte de communiqués qu'on écrit règles habituelles et que les gens prennent pas tant que ça la peine de lire, qu'on fait pas de nouvelles non plus avec ça, parce qu'il n'y avait pas vraiment de nouvelles qui étaient sorties avec ça non plus. T'sais, c'est le genre de communiqué de « On a un nouveau patron. » Saluons-le, disons-lui qu'on a hâte de travailler avec lui parce qu'il faut qu'on travaille avec lui. Patrimoine Canada, c'est 1,5 milliard de fonds qui sont redistribués au Québec et à travers le rock pour financer des films, de la musique, des livres, financer la culture à travers le Canada. Et ça, que... les auteurs, que la musique, que le cinéma aient salué Mark Miller, ça, ça a fait en sorte que Paul Saint-Pierre Plamondon était frustré. Ça l'a mis en maudit que les gens osent saluer Mark Miller avec, à l'entrée de son nouveau... De retour au cabinet ministériel, premièrement, parce qu'en plus, Mark Miller, ça faisait un petit moment qu'il n'y était plus depuis le dernier remaniement, mais que c'était inacceptable de la part des gens de la culture québécoise de saluer l'arrivée du nouveau ministre. Et donc, Paul Saint-Pierre, habitué aux controverses sur Twitter notamment, a écrit en parlant du milieu culturel, mais là, je veux en même temps avoir la bonne citation parce que, évidemment, il ne met pas la faute sur l'entièreté du milieu culturel, mais une manière... C'est une substantielle... Une partie substantielle du milieu de la culture. Je vais aller chercher la bonne citation. Et évidemment, ça ne me donnera pas. Donc, la vacuité intellectuelle, voilà. Il parlait de la vacuité intellectuelle du domaine du ministère de la culture. Qu'est-ce que c'est la vacuité intellectuelle? C'est comme le vide. C'est comme si le monde de la culture était des têtes vides, essentiellement, et de s'appleventrir, donc de se mettre à genoux devant le gouvernement fédéral pour aller chercher l'argent qu'on nous doit parce que c'est notre propre argent. Le problème, c'est que, personne en ce moment est réellement d'accord, à part les purs et durs du Parti québécois, personne n'est d'accord avec cette situation-là. Avec cette situation-là, avec surtout le fait de dire que c'est de l'appleuventrisme et que le domaine de la culture sont des têtes vides. Voilà, la vacuité intellectuelle et l'appleuventrisme d'une partie substantielle du milieu culturel québécois sont franchement gênants. J'ai honte. Et ça, c'est la partie du message qui fait le plus mal à tous ceux qui ont été interviewés, l'Union des artistes aussi. J'ai honte de... du milieu culturel qui se mettent à genoux et de la vacuité intellectuelle des têtes vides. Évidemment, tout le monde l'a confronté, Paul Saint-Pierre Plamondon, avec cette affirmation-là. Et ben, il a bougonné toute la semaine, lui aussi, en entrevue avec à peu près tout le monde. Il était juste frustré qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Et ça, c'est probablement cette arrogance-là de Paul Saint-Pierre Plamondon qui, on lui reproche déjà. Mais qui plus est, avec un sondage en début de semaine qui donnait moins 6 % au Parti libéral et qui redonnait cette entièreté de 6 %-là, même si ce n'est pas 7 % de plus au Parti québécois. Et parce que la CAQ, le Parti libéral, Québec solidaire, le Parti conservateur, que tous les autres partis ne sont pas des offres attrayantes pour contrer le Parti québécois, que de toute façon, en ce moment, ça prendrait que des mauvaises communications comme Paul Saint-Pierre Plamondon l'a fait cette semaine jusqu'à l'élection pour peut-être donner une chance aux autres de s'en tirer. Mais pour l'instant, le Parti québécois, peu importe ce qu'il fait, et en plus, se gonfle tellement le torse que ça fait en sorte qu'ils ne sont, qu'ils sont au-dessus de leurs affaires, qui pensent pouvoir se permettre de tout dire sur le ton qu'ils veulent, et c'est surtout le ton qui est reproché à Paul Saint-Pierre Plamondon, qui ne passe pas. Parce qu'en ce moment, on essaie d'unir les gens autour de l'idée de la souveraineté, on essaie d'unir les gens dans cette idée-là de vouloir faire front commun, de faire un projet commun, mais c'est pas en excluant des gens comme c'est déjà le cas. Et là, en plus de rajouter les artistes par-dessus le marché, qui sont un vecteur habituellement de souveraineté. Le milieu des artistes est beaucoup plus souverainiste qu'il va être fédéraliste, ça c'est sûr. Puis c'est pas seulement parce qu'il y a des montants à aller chercher à Patrimoine Canada qu'il y en a dans le ministère de la Culture au Québec. Le ministère de la Culture au Québec, c'est à peu près 500 millions, 600 millions. Fédéral, c'est 1,5 milliard. Faire des films, faire de la musique, faire des livres, ça coûte cher. Et ces films-là qui voyagent, qui font voyager la culture québécoise dans les festivals autour du monde, qui ont des carrières à l'international et des séries canadiennes-anglaises aussi. Il y en a aussi des séries canadiennes-anglaises. On peut penser à Hearted Rivalry, la série de hockey... La série de hockey avec des homosexuels en ce moment sur Crave, qui est la deuxième série la plus écoutée aux États-Unis et en Australie sur les plateformes HBO, parce que Stranger Things est sorti aussi, fait que ça, c'est évidemment, ça passe en deuxième. Mais que si c'était pas de Stranger Things, ça serait probablement la série la plus streamée dans le monde en ce moment, qui vient du Canada anglais, en très grande partie. C'est que la culture canadienne-québécoise, parce que malgré ce que les péquistes diront, il y a quand même un... Même si c'est les moins importantes, il y a quand même une culture au Canada anglais. Bien, ça fait en sorte que d'attaquer le milieu de la culture, ce n'est pas un message d'union qu'on devrait entendre normalement d'un parti québécois qui est supposé vouloir qu'on s'unisse autour d'une même cause. Mais encore une fois, dans ce même sondage-là qui leur donne 7 points d'avance, ça donne aussi un 2/3, 1/3 contre la séparation du Québec. Parce que beaucoup, et ça, il faudrait qu'on commence à le réaliser davantage peut-être, mais en ce moment, les gens ne votent pas pour le Parti québécois pour faire un référendum sur l'indépendance. Les gens votent pour le Parti québécois pour éliminer François Legault et éliminer la CAQ. Et quelle est la meilleure deuxième option ou qui avait terminé en deuxième dans la plupart des régions la dernière fois? C'est le Parti québécois. Donc en ce moment, parce que le Parti libéral est à terre et ne se relèvera probablement pas avec Pablo Rodriguez, que la CAQ s'est terminée, que tout ce que les décisions que François Legault prend sont contestées et ça ne va jamais bien avec les négociations, encore les médecins cette semaine, que Québec solidaire stagne et même perd des plumes, et que Éric Duhaime, c'est Éric Duhaime, ben, il faudrait qu'ils commencent à réaliser que c'est pas en faveur de leur option, plus que c'est pour défaire l'autre option. Et le problème, essentiellement dans la communication de Paul Saint-Pierre Plamondon cette semaine, c'est que le message ne s'est pas rendu comme lui aurait peut-être dû le faire. Parce que si on met en perspective que Paul Saint-Pierre Plamondon défend la pérennité linguistique et culturelle du Québec en dénonçant Mark Miller et ses prises de position qui dénoncent que les productions culturelles québécoises ne devraient pas dépendre du fédéral et qu'on devrait leur donner l'argent de facto en étant un Québec indépendant. Et tu sais, que si le message avait été englobé, et c'est ça le problème, c'est qu'il fallait, et ça c'est pour m'être pogné avec quelqu'un cette semaine que j'ai encore tout ça un peu en tête, c'est que, et ce qu'il me disait, c'était, faut lire entre les lignes de ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a voulu dire. Le problème, c'est qu'on n'a plus le temps aujourd'hui de lire entre les lignes ce qu'il a vraiment voulu dire. Et le message que Paul Saint-Pierre Plamondon a mis sur Twitter mardi soir. La vacuité intellectuelle et l'appleuventrisme d'une partie substantielle du milieu de la culture sont franchement gênants. J'ai honte. Si là-dedans, on est supposé décortiquer que historiquement, le Canada essaie de noyer la culture québécoise en étant colonisateur et nana. Tu sais, s'il faut passer par B, C, D, E, F, G avant d'arriver au point B, du point A au point B, c'est que la communication ne s'est pas bien faite et qu'elle a été mal réalisée. Et de dire que Paul Saint-Pierre Plamondon s'est trompé et a fait une erreur cette semaine, ce n'est pas d'haïr le Québec et d'être pro-Mark Carney à cause de ça. Parce qu'on l'entend ça aussi. Si on est contre le Parti québécois, si on est contre les idées de Paul, c'est qu'on haït le Québec et qu'on est fédéraliste et qu'on veut la destruction et la noyade du Québec. Donc, autant qu'il y a des enflures d'un côté avec des Christopher Skeet ou des Mélanie Joly qui dit qu'un Québec indépendant, ça va être donner le Québec aux Russes ou donner le Québec aux États-Unis pour faire peur aux gens qui voudraient se séparer, autant que de l'autre côté du spectre qui mène aussi une campagne de peur parce que le Québec va être détruit, parce que le Québec va se noyer dans le Canada anglais, parce que la culture québécoise va être détruite à cause de Mark Carney et Mark Miller, rien que ça. Tu sais qu'à cause de ces deux-là, vos enfants vont mourir dans d'atroces souffrances. Ben c'est pas mieux. Les deux côtés font des enflures qui n'ont pas de sens. Et au final, les gens qui sont dans le milieu et qui hésitent entre les deux options ne s'y retrouvent pas. Parce qu'on peut aimer le Québec sans nécessairement vouloir qu'il se sépare, tout comme on peut vouloir la séparation du Québec sans nécessairement haïr le Canada et que la journée qu'un Québec devient indépendant, faut qu'on soit en guerre perpétuelle avec le Canada parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont ci, parce qu'ils sont ça, parce qu'ils veulent détruire le Québec absolument. Donc, tout ça pour dire, la communication de Paul Saint-Pierre Plamondon a été catastrophique. Peu importe les allégeances, même les commentateurs péquistes dans les médias n'ont pas été capables de dire qu'ils étaient derrière Paul Saint-Pierre Plamondon à 100 % avec tout ce qu'il a dit cette semaine. Il n'y a pas besoin de s'excuser parce qu'il ne le fera pas de toute façon, mais de commencer à dire que parce qu'on a salué dans un communiqué de presse la veille des déclarations problématiques de Mark Miller, et la plupart de ces communiqués-là ont été retirés de toute façon après qu'il ait parlé du débat de la francophonie au Québec. Ça fait en sorte que, puis ça, on a essayé de lui demander à Paul Saint-Pierre Plamondon, est-ce que c'est avec moi ou contre moi? Est-ce que c'est profession de foi ou sinon on est des traîtres? Parce que Paul Saint-Pierre Plamondon a parlé de la traîtrise. Fait que, autant il y a de l'enflure des deux côtés, autant on exagère des deux côtés parce que oui, il y a un problème de français au Québec. Mais essentiellement, ce que Mark Miller disait, c'était qu'on arrête de faire le débat là-dessus en permanence. Faut en parler. Mais est-ce qu'on est obligé de débattre à tout bout de champ et de se positionner pour, contre, avec, contre, sans, en perpétuité? On peut comprendre ce qu'il dit. Mais il ne niait pas non plus que le français est en recul à Montréal. Mais après ça, parce que dans un communiqué, on écrit « Nous serons heureux de travailler avec vous », qui est une phrase classique dans un communiqué de presse, que ça fait en sorte que le milieu de la culture sont des traîtres, sont des têtes vides, font de l'appleuventrisme ou font de la vacuité intellectuelle. Et il l'a dit, il ne s'excuse pas, il persiste, il signe, il ne changera pas de ton. Mais ça, ce ton-là agressif, ça a coûté l'élection à Pierre Poilievre. Mais c'est parce qu'il y a eu un rebrassage de cartes dans les oppositions. Est-ce que quelqu'un va être capable de venir sauver n'importe quel des quatre autres partis? Est-ce que quelqu'un va quitter? Est-ce que François Legault va finir par quitter la CAQ après les fêtes et qu'on va mettre quelqu'un de tellement bon que ça va faire en sorte qu'ils vont remonter dans les sondages? La pente est abrupte. Mais ça sera à voir à ce moment-là si réellement il y aura quelqu'un qui va être capable de pallier à François Legault. Bien, en ce moment, est-ce qu'on se bombe un peu trop le torse parce que les sondages sont bons et qu'on leur prédit une victoire, peu importe ce qui arrive? On le pensait aussi avec le Parti conservateur, mais encore là, ça prend quelqu'un qui va donner l'impression d'être meilleur et qui va peut-être amoindrir les résultats, mais ce n'est pas chose faite du côté québécois. Donc, si ça donne le ton en plus à ce qu'aura l'air la campagne référendaire, ça promet d'être particulièrement mouvementé. Mais voilà, donc fédéraliste contre séparatiste, le débat est de retour au Québec et au Canada. C'est déjà reparti. On s'arrête quelques minutes sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Au retour, la suite de l'actualité de cette semaine. Zoo Baby, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Petite brève cinématique au cinéma. Nouvelle qui est sortie ce vendredi matin et qui va changer la game. ça, c'est le cas de le dire. Puisque aux États-Unis, Netflix achète Warner Brothers et c'est majeur comme transaction. C'est maintenant la plus importante transaction dans le domaine du cinéma qui est faite aux États-Unis. La précédente, c'était lorsque Disney avait acheté le catalogue de Fox. Maintenant, c'est Netflix qui va se procurer Harry Potter, qui va se procurer Citizen Kane, qui va se procurer... une grande partie du DC Universe. C'est une énorme transaction pour Netflix. Si Fox et Disney, ça avait coûté 71 milliards pour Netflix et Warner, il faut prévoir 83 milliards de dollars américains. La télévision traditionnelle décline et la bataille se joue en ligne. Pour qu'il consolide sa position de leader dans la diffusion en continu, des analystes s'attendaient avoir Netflix boucler une transaction de cette importance-là, mais en même temps, il n'y en avait pas 36 000 qui pouvaient acheter. Donc, qu'il achète un studio centenaire, comme plusieurs vont le dire, c'est majeur. Et en achetant ce catalogue-là, ça fait également en sorte que c'est des exclusivités Netflix qui vont grandir énormément. Et qui va faire en sorte que ça risque de coûter plus cher. Donc, la croissance des abonnés devient difficile. Pour garder sa couronne, l'entreprise doit toujours offrir plus. C'est l'un des facteurs qui fait en sorte que maintenant, si tous les films de la Warner se ramassent du côté de Netflix, ça veut dire que ces films-là vont tranquillement quitter les... justement, peut-être qu'il y en avait un petit peu sur Disney, peut-être qu'il y en a beaucoup en ce moment sur Crave... La Warner, c'est aussi Bugs Bunny. Fait que, tu sais, c'est tout ça va finalement, les Looney Tunes. Harry Potter, les Looney Tunes, Batman, donc le DC Universe, les Teenage Mutant Ninja Turtles, que ce soit les jeux, que ce soit que ce soit tout l'univers de tout ça, Scooby-Doo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mortal Kombat, Big Bang Theory. Ah, ouais. Fait que tu sais, le film Barbie. Fait que tu sais, il y a énormément de choses qui appartiennent. La plupart, voilà, étaient sur Max était la plateforme Max aux États-Unis, mais qui était redistribuée à travers Crave, était redistribuée à travers Amazon Prime. Ben, tout ça va être rapatrié sur Netflix, en espérant que les doublages québécois vont suivre, parce que si les 7 films d'Harry Potter sont seulement disponibles en France et de France sur Netflix, ça va être problématique pour la pérennité des médias québécois, ne serait-ce que cette franchise-là qui est extrêmement marquante pour le marché québécois, canadien, français. Qu'est-ce que Netflix obtient? Le catalogue obtient double sa valeur. L'entreprise récupère en plus HBO Max. Donc, c'est majeur. HBO Max aux États-Unis, ceci dit. Donc, Netflix ajoute des Stranger... il y a en ce moment Stranger Things, Squid Game, K-Pop, Demon Hunters. Et il y aura finalement le cinéma... La série Friends, qui sera finalement de retour sur Netflix après l'avoir enlevé parce que, justement, les ententes avec Max faisaient que Friends s'en allait sur l'autre plateforme. Les DC Comics et... avant de finaliser le tout, Warner devra toutefois se séparer ses studios de cinéma de sélectivité de diffusion. Ah, d'accord. Donc, il y aura encore des films Warner, mais qui seront diffusés par Netflix. Donc, est-ce que ça sera des films comme Acme qui ne se retrouveront plus, Coyote versus Acme qui ne se retrouveront plus en ligne? On va souhaiter que non. Mais ça ne serait pas non plus complètement impossible que certains trucs sortent en exclusivité Netflix au lieu de sortir au cinéma. Mais dans bien des cas, des fois, on peut avoir des succès surprises, un peu comme K-Pop Demon Hunters, qui est devenue l'affaire la plus regardée sur Netflix, et que si elle était sortie au cinéma, probablement qu'il y aurait fait énormément plus de cash. Mais bon, ça, c'est Sony Pictures qui n'avait pas nécessairement... ça dépend à qui. C'est que c'est le diffuseur Sony Pictures qui n'avait pas vu le potentiel et qui pensait que son film de Schtroumpf allait faire plus de vues que K-Pop Demon Hunters. Ça, ce serait un pensez-y bien, comme on dit, parce qu'effectivement, les Schtroumpfs, ça n'a pas fait tant d'argent que ça. Donc, Disney possède Marvel, Star Wars, Pixar. Netflix a maintenant DC, Harry Potter et le catalogue de HBO. Qui est pas rien. Donc, encore une fois, qu'adviendra-t-il des ententes avec Crave au Canada maintenant que Netflix récupère le tout? Donc, est-ce que ça veut dire que Crave va... Ben, en fait, non, il doit avoir des ententes de signer, mais c'est un game changer, comme on peut l'appeler, parce que c'est ça. En ce moment, ces exclusivités-là, HBO, ça, c'est le Trône de Fer, c'est Tchernobyl, c'est le Lotus Blanc, White Lotus, c'est Six Pieds Sous Terre, c'est énormément de séries, Sex and the City, puis la suite que personne n'aime. Mais tu sais, tout ça était présentement dans le catalogue de Crave, donc c'était dans le catalogue de Bell Media. Est-ce qu'ils vont le perdre? Parce que Netflix est disponible au Canada, contrairement à HBO Max. Oh, ça change la donne. Il y a des prix qui vont devoir être ajustés parce que ça coûte cher. Les services de streaming. Et je suis en train de me rendre compte que l'offre du Boxing Day de laquelle j'ai profité il y a 3 jours ne vaut peut-être plus grand-chose avec cette annonce de ce vendredi. Donc, à voir comment les ententes vont se moduler. Probablement qu'il y a encore un an ou deux avant que les changements soient complètement effectifs et que le catalogue de Netflix soit à 100% celui de HBO. Mais ça sera à surveiller. Donc, surveillez vos abonnements, surveillez les prix parce que ça va... La game change bout pour bout. Ben c'est comme la télévision. La télévision, les postes se fusionnent, on récupère des catalogues ici et là pour les envoyer sur tel poste et tel poste. Ben, les plateformes en ligne font la même affaire, ils fusionnent. Déjà qu'ils se vendaient en paquet 2, en paquet 3, comme les forfaits télé, ben maintenant, ils vont devenir une seule plateforme qui va coûter 30$ par mois, mais qui va contenir des 10 000 et 100 000 heures de visionnement de plein d'affaires. Fait que c'est de même, ça va se justifier, mais ça va coûter aussi cher que la télévision dans le temps. Fait que ça sera le câble ou les plateformes numériques, mais à tous les coups, ça sera pas le contenu canadien, québécois qui va être mis de l'avant. Et ça, Simon travaille fort là-dessus à Québec, là, pour la découvrabilité. Simon, puis Mathieu Lacombe, c'est ça, Mathieu Lacombe. On l'oublie des fois, Mathieu Lacombe, mais il existe encore, ministre de la Culture québécoise. On fait une courte pause, une petite blague, mais reste quand même que c'était, ça change la donne pour vrai en ce moment. Ça sera comme 4-5 grosses plateformes qui vont s'affronter dans tous les marchés. Déjà que Disney aura ravalé Hulu également aux États-Unis, ça change la donne. Courte pause au retour. Allons au cinéma justement sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. De retour sur les ondes de Chiz, sur les ondes de CFAQ. Bande annonce tout de suite de la comédie de l'hiver que tout le monde semble bien apprécier, Les Furies de Gabriel Côté.
Bagarre à l'aréna, voix de fée contre une policière. C'est un programme de réinsertion des femmes agressives parrainé par le Cercle de fermières de Waterloo.
On a du fun en soda ici, là.
Pas faire du tricot qui va me calmer les nerfs, certain.
On dirait que c'est juste les clubs féminins qui ont été sacrés dehors de l'aréna à cause des Napoléons.
C'est moins populaire, les ligues de femmes.
On va rassembler des femmes pour faire du roller derby. Ça va être ça, tes travaux communautaires, puis c'est moi qui vais vous coacher. Important de savoir tomber. On vous a trouvé une ligue. Dans un mois seulement, il y a des filles de Montréal qui viennent pour approuver notre candidature.
Montréal, la ville?
C'est quoi l'autre option, mettons?
Moi, je suis fier de vous autres. Puis je donnerais n'importe quoi pour être dans vos patins à soi.
On remet notre casque. On repart se battre.
Il faut que la ville soit derby.
Faudrait qu'on se trouve un nom d'équipe.
Je sais. Les girls.
Moi. Ouais, je sais pas. On dirait qu'on est dans la fureur, là.
Qu'est-ce que tu montes la fureur?
Oui, c'est...
Je l'ai. Furie.
Avec une distribution pratiquement 100% féminine, on retrouve Gabriel Côté, Anne-Elisabeth Bossé, France Castel, Juliette Gosselin, Debbie Lynch-White, Aurélie Arcadie-Lompré, Lirel Dauphin, Xémina Ferrer, Oiza, Nathalie Doumer et Sandrine Bisson et Samantha Fins, voilà dans les rôles de l'équipe des Furies. Donc, ces héroïnes intenses et imparfaites. Première comédie sportive au féminin à Waterloo qui aura désormais son équipe de hockey semi-pro masculine qui fait en sorte que les ligues féminines amateurs de l'aréna sont expulsés pour venger leur temps de glace perdu. Une joueuse de hockey impulsive et une impitoyable octogénaire, ancienne championne de derby, ont un plan. Recruter les laissés pour compte de la ville et mettre sur pied une équipe de roller derby clandestine. En tout cas, clandestine, il intègre quand même la ligue après. Avec la complicité du Cercle des fermières, elles prouveront que le sport féminin peut aussi soulever les foules et que la sororité de l'ultime acte de et que la sororité est l'ultime acte de résistance. Par où commencer? C'est joyeux. Oui, je lis en même temps une critique sur les yeux. Un film joyeux, drôle et furieusement féministe qui donne envie de rejoindre la gang. Impossible de ne pas vouloir enfiler ses patins après ça. Non, pas à ce point-là. Un film joyeux, oui. Tu sais, c'est dans la bonhomie. Là, tu sais, on règle le cas et tout le monde a une fin relativement heureuse à la fin de ce film-là. Mais il y a beaucoup de choses, on va dire ça comme ça. Parce que justement, cette équipe de Furies-là, c'est une dizaine de filles qui arrivent un peu toutes avec leur background. Et à part une ou deux, on essaie un peu d'aller décortiquer ces passés-là de ces huit autres filles-là de l'équipe. Et ça fait en sorte qu'il y a peut-être un petit peu trop de scénarios B, C, D, E, F, G, d'intrigue secondaire. Je devrais plutôt dire intrigue secondaire est le bon terme. Mais tu sais, il y a un petit peu trop d'intrigues secondaires qui sont toutes un peu réglées parce qu'on a terminé d'en parler. Tu sais, au sens où on essaie d'aborder beaucoup de sujets, mais parce qu'il y a un point culminant, tu sais, l'espèce de... Dans le diagramme d'une histoire, on part d'un sujet, un peu l'introduction, ensuite l'événement perturbateur, les événements déclencheurs, jusqu'à là qu'on arrive au point culminant. Bon, ben quand on arrive au point culminant, tous ces petits scénarios-là, là, toutes ces petites actions-là dans le milieu sont comme toutes bouclées quand on est au chevet de France Castel. Puis, toi, ta vie de famille, est-ce que c'est correct? Oui, oui, je vais m'en sortir. Et toi, tes problèmes, là, j'invente, là. Et toi, tes problèmes financiers, ça va bien aller? Ah, oui, oui, je vais m'en sortir. Parfait, on peut aller jouer au derby à cette heure. Fait que, tu sais, on a comme tout conclu ça beaucoup trop rapidement. Puis surtout, il y a certains sujets qui sont un petit peu plus complexes que d'autres. Mais parce qu'on veut être dans cette bonhomie-là, qu'on veut être dans un film sympathique, joyeux, malgré tout, puis que c'est des filles qui n'ont dedans, puis qui veulent se battre, puis non, tu sais. Il y a peut-être ça aussi, tu sais, qu'on tourne un petit peu les coins ronds, peut-être. Puis, ben, ce qui était au déplaisir de beaucoup de monde aussi, c'est que, ben, c'est ça. C'est un film sur le derby, puis essentiellement, il y a du derby dans le dernier 25 minutes du film qui dure 1h47. Fait que c'est ça, c'est un peu moins que le tiers du film qui a réellement un match de derby qui se passe. Puis même le match de derby se finit pas vraiment. Fait que c'est un peu tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Mais c'est ça. Fait que c'est pas un mauvais film non plus. Tu sais, on s'est posé la question cette semaine aussi au bureau avec Alexandre, autre spécialiste du cinéma ici à CFAC. Est-ce que c'est parce qu'on voit trop de films dans une année pour trouver que Les Furies est un bon film? Peut-être. Est-ce qu'on est snob du cinéma? Peut-être. Mais parce que c'est pas un mauvais film. L'humour est pas si pire. Là, on surprend à sourire à quelques occasions. C'est pas des gros... En tout cas, personnellement, c'est pas des gros rires parce que ça reste un peu des gags de « on se tape ses cuisses parce que c'est drôle! » c'est un peu gras, mais c'est pas mal fait pour autant. Fait que tu sais... C'est un peu dur. Fait que c'est pour ça que c'est ça, quelqu'un qui va au cinéma deux fois, trois fois par année, qui s'intéresse parce que c'est ça. On en parle beaucoup, un peu comme Nos Belles-Sœurs. T'sais, Nos Belles-Sœurs, moi, personnellement, j'avais pas particulièrement apprécié le film, mais quelqu'un qui va pas souvent au cinéma, qui aime ce genre de cinéma-là, qui est très grand public, qui veut plaire à tout le monde, va y trouver son compte. Les Furies, ça rentre dans cette catégorie-là. Puis il y a beaucoup d'actrices qui sont dans Nos Belles-Sœurs, qui sont aussi dans Les Furies, Anne-Elisabeth Bossé, Debbie Lynch White notamment. Fait que tu sais, à quel point est-ce que ça va aller rejoindre? Tu sais, probablement que ça va repartir l'année prochaine avec l'iris du film Prix du public parce que les gens vont l'avoir apprécié. Parce que, et ça, c'est à tort. Il y a beaucoup de gens que parce que c'est un film de sport, ils ont fait le lien avec Les Boys, que c'était des acteurs dans Les Boys, puis que c'était un film de gars. Bon, ben que là, Les Furies, ben, c'est un film de filles, avec juste des filles. La comparaison s'arrête là parce que les histoires n'ont aucun rapport entre les deux. Et puis ça aussi, on en parlait, la différence avec Les Boys, c'est vraiment tous des gars qui viennent de milieux réellement complètement différents. Tu sais, t'as l'agent d'immeuble, t'as le gars qui est là-dedans, t'as le concierge, tu sais, t'as vraiment des gars qui viennent de plusieurs strates, t'as un avocat, c'est vrai, il y a un avocat aussi. Fait que tu as vraiment des strates différentes de gars qui se ramassent à jouer au hockey. Tandis que là, Les Furies, ben c'est tout du monde qui sont déjà... un peu en mal, ben, même dans la description, les laisser pour compte de Waterloo, si ça existe. Fait que tu sais, puis encore là, ils sont pas vraiment laissés pour compte. Ils ont des professions différentes, mais tu sais, il n'y a pas d'avocate, il n'y a pas la mairesse qui joue dans l'équipe. Là, c'est une éducatrice en garderie, une vidangeuse, une barmaid. Puis Sandrine Bisson, malheureusement, joue encore la barmaid qui parle un peu mal. Fait que tu sais, c'est encore ce rôle-là pour elle. Fait que tu sais, on tombe un petit peu dans les clichés aussi. Fait que je comprends l'intention, je comprends le film en même temps parce que ça va rejoindre le public qui a rejoint. Mais est-ce que c'est un bon film dont on va se rappeler dans 5 ans, dans 10 ans, puis qu'on va avoir hâte de voir Les Furies 2 puis Les Furies 3? Ça, j'en doute. Mais il y a un succès certain quand même qu'il va avoir autour de ce film-là. Ça, c'est pas difficile à croire. Puis de toute façon, pendant la période des fêtes, c'est la période idéale. C'est ça. C'est bon enfant, c'est une comédie, c'est léger. Fait que, tu sais, si on veut aller voir autre chose qu'un film d'horreur pendant le temps des fêtes, et c'est à peu près un des seuls films québécois, sauf erreur, non, il y a d'autres films aussi à l'affiche en ce moment, mais un gros film qui peut rallier quand même beaucoup de monde. Les Furies va trouver quand même. Son public, comme je le dis, ça pourrait repartir avec soit l'Iris du meilleur vendeur l'année prochaine ou prix du public, choix du public. Ça serait pas complètement impossible non plus parce que les gens sont dithyrambiques sur ce film-là. Personnellement, un peu plus tiède, réaction un peu plus tiède, mais les gens ont l'air d'avoir aimé ça puis d'avoir trouvé ça super bon. Fait que le public a son mot à dire là-dedans aussi. Là. Donc, voilà pour ça. On fait une courte pause de retour à la conclusion de l'émission cette semaine sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. De retour sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. On vient d'entendre Chose sauvage, oui, sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de Chiz. Compte toujours, voilà, c'était le titre de la chanson. En terminant, bon, l'émission cette semaine, c'est juste dommage qu'on y soit encore dans ce débat-là. On apprenait cette semaine que Cogeco Média veut encore descendre les quotas de musique diffusée dans ses stations pour faire passer la musique francophone de seulement 65% à 40%. Donc, d'enlever une partie de la musique francophone qui ne joue déjà pas particulièrement beaucoup et d'en faire jouer encore moins. Ce n'est pas la première fois que Cogeco tente de diminuer cette obligation. Dans un communiqué conjoint avec d'autres acteurs de la radio datant de septembre 2015, Cogeco affirmait vouloir se rapprocher, selon eux, des habitudes de consommation des Québécois francophones et adopter un nouveau quota de musique canadienne de langue française à même 35%. Fait que c'était encore pire. Il y a 10 ans, c'était encore pire. Là, on est à 40%. Fait qu'on a fait un effort de laisser 5%. Les stations de Cogeco, c'est quoi? C'est les Rythme FM, c'est quoi à Montréal? C'est The Beat à Montréal, c'est les Planètes au Lac-Saint-Jean. Et il y en a Abitibi, sauf erreur. C'est Sim dans les Laurentides. Et c'est ça, on veut mettre encore moins de musique francophone dans leur station, ce qui est particulièrement problématique. Et c'est notamment le combat qu'a fait Alexis Normand, une autrice, compositrice, interprète, qui est allée, Françoise, qui est allée dans la consultation qui a été faite cette semaine devant les élus fédéraux. Pour, plaider, elle, que, ben non, on diminue pas les quotas de musique francophone dans les radios déjà qui est pas particulièrement élevé, ou en tout cas, on diffuse pas à heure de grande écoute la musique francophone dans ces radios-là, parce qu'effectivement, on remplit le 65% dans une journée, parce qu'on fait jouer les chansons un peu rapidement entre 20h et minuit, quand personne n'écoute. Réduire les quotas de chansons francophones, c'est une erreur majeure pour la survie du français, estime Alexis Normand, l'artiste. L'enjeu dépasse l'enjeu de la langue. Jouer à la radio commerciale, c'est ce qui permet à nos voix d'exister dans des marchés plus grands, disons le Québec, par exemple, parce qu'elle, évidemment, vient de la Saskatchewan en tant que Françoise. Donc, c'est comme un enjeu identitaire. Nos accents, nos dialectes, nos histoires sont rarement chantés à la radio commerciale. Diminuer les quotas de 65 à 40 diminuera également les chances d'être entendus. Parce que si, en plus, c'est ça, on en fait diffuser moins, on ne va pas diffuser des nouveautés. On va diffuser les affaires que le monde connaisse déjà. Parce que selon les habitudes de consommation, comme le dit Cogeco, ça a l'air qu'il faut en mettre le moins possible. Donc, très hâte de voir Paul Saint-Pierre Plamondon traiter Cogeco de traître à vouloir pas faire diffuser de la musique francophone. Blague à part, ça reste quand même problématique que les radios commerciales soient encore à vouloir diminuer le pourcentage francophone alors qu'ils font déjà pas tant que ça leur effort. Et c'est encore plus ironique parce que Cogeco était très fier de présenter des prix au Gala de la Disque il y a à peine un mois. Donc, ça devient difficile pour eux autres après ça de monter sur scène et de dire qu'on aime les artistes ici, on aime vraiment ce que vous faites. Et dans un même temps, vouloir enlever quasiment deux chansons sur cinq de sa programmation qui est pas en français pour mettre encore plus de Taylor Swift et mettre encore plus de Sabrina Carpenter sur leurs ondes. Le média qui rejoint près de 4,5 millions d'auditeurs par semaine au Québec et dans l'Est ontarien assure que sa viabilité est gravement menacée. Sans radio d'ici, pas de contenu d'ici, rappelle la présidente de Cogeco Média, Caroline Jamais, qui un peu plus tôt en septembre avait assuré que les médias radiophoniques canadiens étaient menacés et que la réglementation en vigueur mettait en jeu la pertinence des radios auprès des auditeurs. Votre micro-gestion persistante des grilles de programmation des stations de radio canadiennes met en péril les objectifs de l'avenir de notre industrie. Je te confirme, Madame Caroline, que si tu fais jouer de la musique francophone, les gens appelleront pas pour se plaindre. Fait que, surtout si c'est des affaires que le monde aime. Fait que, de dire que sa radio va fermer parce qu'elle est obligée de jouer de la musique francophone alors qu'elle travaille au Québec, ça, c'est difficilement justifiable. Mais c'est là-dessus que ça va se terminer pour cette semaine, parce qu'on manque de temps. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. À la semaine prochaine. Salut!